Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais aujourd'hui évoquer une personnalité du théâtre qu'on oublie peut-être un peu actuellement, mais qui a eu son heure de gloire et qui, ma foi, n'est pas sans intérêt, je vous laisserai le soin de juger. Il s'agit de Jean Tardieu. Il est né en 1903, il est mort en 1995. Il a été très ami avec Raymond Queneau, il a eu le Grand Prix de la Poésie française, et il a surtout écrit plusieurs pièces de théâtre. Alors aujourd'hui, je vous propose une courte pièce en un acte. Alors, je préfère annoncer la couleur. Si vous avez l'esprit logique, cartésien, comme on dit, ou comme on ne dit plus, accrochez-vous. Voici la pièce en question, le titre « De quoi s'agit-il ?» Ça se passe dans un tribunal. Le juge. Asseyez-vous. Les témoins s'assoient, le greffier se tient prêt à taper la conversation. Voyons, Madame Poutre. C'est cela. Madame Poutre, c'est vous que je vais interroger la première. Ah, eh bien, tant mieux. Pourquoi tant mieux ? Parce que mon mari, il ne sait jamais rien. On verra. Madame Poutre, voyons. Madame Poutre, Adélaïde, née Soliveau, née le 19 de l'année 1900. Mariée à Jean-Joseph Poutre, son époux dont elle est l'épouse. À l'énoncé de leur nom, monsieur et madame Poutre sont levés, puis rassis mécaniquement. Bon. Madame Poutre, pouvez-vous nous rappeler aussi exactement que possible quand vous avez fait sa connaissance, quand vous l'avez vu pour la première fois? Qui? Mon mari? Mais non, voyons. Celui qui aura... Vous me comprenez. Celui dont il s'agit, celui qui a motivé votre présence ici. Monsieur Poutre à sa fin. Eh oui, tu sais bien... Nous sommes là pour ça, pour témoigner en sa faveur. Ou contre lui, c'est selon. Nous verrons. Oui, c'est cela, pour témoigner contre lui en sa faveur. Madame Poutre a pris un coup d'œil courroucé à son mari. Ah, je sais. Tu n'as pas besoin de me le dire, je ne suis pas plus bête que l'autre, va. Je sais ce que parler veut dire. Le juge, alors. Je répète ma question. Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Quand je l'ai vu pour la première fois, eh ben, c'était il y a 10 ans environ. Il y a 10 ans, bon, nous notons. 10 ans, ce n'est pas d'hier. Et pouviez-vous vous douter de quelque chose dès ce moment? Madame Poutre, je me doutais de rien du tout. Le juge. Comment cela s'est-il passé la première fois? Eh bien, voilà. J'étais dans la cuisine à ramasser des pommes de pin pour la soupe. On était en décembre, là. Il faisait une chaleur lourde, comme quand on sait qu'on chauffe beaucoup pour lutter contre le froid. Mon mari, ici présent, était absent comme toujours. C'est pourquoi qu'il peut en témoigner devant vous. Et tout par un coup, voilà qu'il est entré. Le juge, par où? Par la fenêtre. Il est entré comme ça, brusquement. Il a fait le tour de la pièce, il s'est posé tantôt sur une casserole de cuivre, tantôt sur une carafe, et puis il est reparti, comme il était venu, le juge. Sans rien dire, Madame Poutre, sans rien dire. Nous notons. Bon, l'avez-vous revu souvent depuis ? Oh, bien sûr ! Même qu'il a fini par s'installer tout à fait. Notez qu'on ne voyait jamais que pendant le jour, le soir, plus personne. Le juge. Étiez-vous chargé de le nourrir, Madame Poutre? Qui ça? Monsieur Poutre. On te demande, monsieur le proviseur te demande s'il était nourri par toi, par nous. Enfin, elle ne fait pas la butée, puisqu'on l'avait recueilli, tu sais bien qu'on était tenu de le nourrir. Ah! Oh, docteur, pardon, colonel. C'était bien plutôt lui qui nous nourrissait, qui nous réchauffait en tout cas. Le juge, qui vous réchauffait. Comment cela? Ben, pardi, c'est-il pas toujours comme ça? S'il n'était pas là, nous autres, on crèverait de froid, pas vrai? Monsieur Poutre, ça c'est vrai. Moi, quand je le vois, je suis tout ragaillardi, le juge. Comment? Je ne comprends plus. Vous venez ici pour déposer une plainte, Madame Poutre. Une plainte en sa faveur. Oui, docteur. Le juge, ne m'interrompez pas, ne m'appelez pas docteur. Et ni monsieur le proviseur, appelez-moi mon père. Donc, vous déposez contre lui, et vous allez prétendre que sa vue vous ragaillardit, vous réchauffe, ou je ne sais quoi d'aussi absurde. Monsieur Poutre, ça n'est pas absurde, docteur. Pardon, mon père. Ça n'est pas absurde, mon père docteur. On ne pourrait pas vivre sans lui, surtout à la campagne. Nous autres cultivateurs, nous autres légumes, fruits, primaires, laitages, comment qu'on ferait sans lui? Sans qu'il vienne tous les jours nous réchauffer le cœur? Le juge agacé. Enfin, de qui parlons-nous? Madame Poutre, mais de... Elle désigne le ciel. Le juge, que voulez-vous dire? Ben quoi? Le soleil, pardi. Ah là là, voilà le malentendu. Nous ne parlions pas de la même personne, de la même chose. Moi, je vous parlais de votre agresseur, de votre voleur, de votre cambrioleur. Et vous? Vous parliez de quoi? Du soleil. C'est invraisemblable, c'est inimaginable. Comment avez-vous pu vous y prendre pour faire fausse route de la sorte? Monsieur Poutre, c'est pas nous qu'on a fait fausse route, monsieur le proviseur docteur, c'est bien vous, vous-même. Nous autres, on savait de quoi on parlait. Je suis furieux. Et moi? Vous croyez que je ne sais pas de quoi je parle, non? Ah! Faites attention, vous ne savez à qui vous avez affaire. Filez d'où, moi, ma petite dame, et vous, mon petit monsieur? C'est insensé, on se moque de moi. À monsieur Poutre, à nous deux maintenant, à votre tour, vous allez déposer, monsieur Poutre. Déposer quoi? Déposer veut dire témoigner. Vous allez témoigner. Racontez-moi comment les choses sont passées le jour de l'événement. Monsieur Poutre, bien voilà, comme un fermier vient de vous le dire, j'étais pas là, j'étais absent. Le juge, alors, comment pouvez-vous témoigner? En quoi? En voilà encore une nouveauté. C'est, Madame Poutre, que monsieur le curé, moi, je ne me rappelle plus rien du tout, mais comme je lui avais tout raconté et que lui, il a une mémoire d'éléphant, alors, le juge, drôle de témoignage, enfin, nous ne pouvons pas faire autrement. Allons, racontez. Alors voilà, monsieur Poutre, j'étais allé à la pêche. Dans la rivière, dans la petite rivière, le petit bras de la petite rivière, autrement dit celui où il y a des nénuphars, pas l'autre où il y a du courant, alors je n'attrape jamais rien, tandis que les écrevisses, elles me connaissent, elles vont lentement, moi aussi, alors on finit toujours par se rencontrer. Sauf votre respect, monsieur le commissaire, autour d'un morceau de mouton pourri, du bien frais que le docteur, le boucher, me prépare exprès pour moi et balance le dimanche. Le juge abrégé, je vous prie. Monsieur Poutre, alors, juste pendant que j'étais pas là, Il a profité de ce que je n'étais pas là, ni ma femme non plus d'ailleurs. Le juge, pardon. Vous venez de m'affirmer l'un et l'autre que si vous n'étiez pas là, par contre, votre femme y était. Monsieur Poutre. C'est-à-dire qu'elle était dans la maison. Mais elle n'était pas là, à l'endroit même où ça s'est passé, vous comprenez ? Le juge, mais finalement, où ça s'est-il passé ? Monsieur Poutre, ça s'est passé au jardin. Bon. Alors, de la maison, elle pouvait, je suppose, voir ce qui se passait au jardin. Ah, ça, point du tout. Monsieur mon père, non, ça, je peux vous le dire, de là où j'étais, dans la maison, c'est-à-dire de la cuisine, je ne pouvais rien voir au jardin. Le juge, et pourquoi donc ? Parce que la cuisine, c'est une pièce qui tourne le dos au jardin. Alors, comment avez-vous pu raconter quoi que ce soit au témoin, enfin ? C'est que, voyez-vous, je lui ai raconté les effets. Quels effets ? Ben, les effets de ce qui s'est passé. Alors, racontez. Ah, mais non ! C'est pas à moi à raconter. Le juge, pourquoi, je vous prie ? C'est pas à moi à raconter, puisque je vous dis que j'ai rien vu. Le juge, alors, comment faire, puisque lui, de son côté, votre mari n'était pas là ? Ah, ça fait rien, lui, il raconte mieux que moi. Il a plus de mémoire ou d'imagination, je sais pas, moi. Alors, monsieur Poutre, veuillez me raconter à moi qui n'était pas là l'événement qui s'est produit en votre absence et qui vous a été rapporté par votre femme, bien qu'elle n'y ait pas assisté. Monsieur Poutre, je vous disais donc que j'étais à la pêche quand je suis rentré. J'ai entendu un grand cri. C'était ma femme. Le juge avait été blessé, mais non. Elle était furieuse parce qu'il avait tout saccagé dans la maison. Enfin, nous y voilà. Il avait tout saccagé. Tout, monsieur le juge, monsieur le professeur, tout. Les plates-bandes étaient piétinées, la toile des transats était déchirée, les oignons étaient coupés, les outils étaient par terre. Ah, il avait dû être furieux, le juge. Une crise de nerfs, Délirium tremens, peut-être. Mais venez-vous souvent chez vous ? Ah oui, souvent. Ma femme vous l'a dit. Le juge, pardon. Il y avait eu confusion. Je parlais de lui, elle me parlait du soleil, rappelez-vous. Mais c'était vrai aussi de lui. Le juge, voyons. Voyons, réfléchissez. Il y a une nouvelle confusion. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était plutôt lui qui vous nourrissait. Maintenant, vous me parlez de ses colères, de ses déprédations. Dans un cas, vous parlez du soleil, dans un cas, d'autre chose. Alors, parlez, mais parlerez-vous à la fin ? Madame Poutre, comment vous dire ? N'hésitez pas, ne craignez rien, vous êtes ici pour dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. D'ailleurs, dans tout ceci, vous n'êtes que des témoins. Témoins, oui, d'accord, mais aussi victime, monsieur mon fils. Ah, appelez-moi mon père, ma sœur. Oui, mon père, ma sœur. Abréjons. De qui s'agit-il ? De l'agresseur ou du soleil ? Ben, des deux, monsieur le docteur juge. C'était tantôt le soleil, bien sûr, et tantôt l'orage, parce que l'orage, voyez-vous, quand il est là, il cache le soleil. Alors, on le regrette, on est dans l'ombre, il saccage tout. Il faut dire, l'orage, avec sa saleté de bruit de tonnerre, pour le malheur des oreilles, des éclairs pour aveugler, sa pluie pour gonfler les torrents et inonder les pâtures, le soleil. Lui, il réchouit le cœur, et quand on le voit, on lui dit « Bonjour, entrez, monsieur. » Alors, il rentre par la fenêtre, tant que dure le jour, et quand l'orage ne le cache pas, et quand il fait sec, et quand il pleut, tout d'un coup, voilà l'orage, et c'est comme ça qu'on est, tantôt pour, tantôt contre. Et voilà pourquoi on dépose une plainte contre inconnu, et en même temps, à sa faveur. Voilà, j'ai tout dit. Le juge. S'il en est ainsi, monsieur et madame Poutre, je ne peux rien pour vous. Rien. Absolument rien. Greffier conclué au non-lieu. Selon la formule, voilà, tout bien considéré à mon âme et conscience, mutatis mutandis, nous ici présents en pleine possession de nos moyens d'existence en présence des parties plaignantes et à l'absence des exculpés, décidons que rien de ce qui est advenu ne comporte de conséquences sauf imprévues, en tout bien tout honneur et aux dépens des prévenus, aux tarifs prescrits par la loi, etc. Il se lève. Les témoins et le greffier se lèvent aussi. Silence ! Respect à la loi. La séance est levée. Allez en paix. et que nul autre que l'orage ou le soleil ne trouble votre conscience. Je vous propose une pause musicale. Je vous propose de rester en compagnie de Jean Tardieu. Sans doute, on n'a plus dans les champs ce qu'on voyait il n'y a pas si longtemps, des épouvantails. Vous savez, ces espèces de mannequins chargés de faire peur aux oiseaux. Mais à ma connaissance, personne ne s'était penché avant Jean Tardieu sur les états d'âme d'un épouvantail. Alors voici de Jean Tardieu l'épouvantail. Bonsoir de bonsoir, comme je m'ennuie dans cette plaine sans fin où ne passe pas un homme pareil à moi. Pareil à moi, l'épouvantail. Debout et solitaire, par tous les temps, les gens du village m'ont planté là pour faire peur aux oiseaux pillards, pour les empêcher de voler le grain des semailles, puis le grain qui mûrit, puis le grain de la moisson. Oh! Chaque jour, chaque année, on me porte ici, sur le chariot de la ferme. Et c'est une fête pour tous. Putain de charogne! Quand ils me dressent au-dessus des champs où je dois rester vigilant et immobile pendant que la terre fait la moitié de son tour, les enfants rient, battent des mains, sans prendre garde à ma misère, au soleil qui va me brûler, au froid et à la pluie qui vont me geler. Ensuite, adieu tout le monde, on s'en va, en me souhaitant bonne chance par dérision. Car je reste seul au milieu des labours avec mes vêtements pleins de trous, sans pouvoir faire un pas. Voyez, le vent qui me secoue sans pitié fait tournoyer mon vieux chapeau en loques, trembler mes longs bras bourrés de paille, résonner un drôle de sifflet logé dans ma tête. C'est là tout le mouvement qui m'est permis. Je me souviens d'autrefois quand j'étais un enfant comme les autres, avec des jambes, des bras, des yeux qui bougent. Je montais dans le grenier de la maison, j'ouvrais les yeux, vieux coffre poussiéreux, plein de souvenirs des ancêtres. J'y trouvais des habits anciens, surtout me plaisait l'uniforme de garde nationale de l'arrière-grand-père du temps du roi Louis XVIII. Il avait l'abri de drap noir, très lourd, avec des épaulettes comme une barbe rouge, le shako très haut, le baudrier de cuir blanc. Et le sabre, le grand sabre mal aiguisé. Bonsoir de bonsoir, c'était le temps de jadis. En catimini, j'emportais la défense sur le pré, derrière l'écurie, cachée par les pommiers. Je m'habillais avec cérémonie, et tout le jour, je remportais des victoires sur ces ennemis terribles, que sont les pissenlits, les raies des prés, les mouches bleues, les papillons jaunes et blancs dans le soleil. J'étais déjà à l'épouvantail, mais pour moi-même seulement. et pour la gloire d'être en vie. Le temps a passé. Maintenant encore, je dois gagner des batailles, mais je me bats contre ceux que j'aime. On me les a désignés comme ennemis. C'est l'alouette qui chante si haut qu'on ne la voit pas. Les moineaux bavards et rieurs, les étourneaux qui s'abattent, barbants sur les terres, les merles inspirés, les hirondelles ivres de vitesse et les corbeaux dont l'habit noir a des reflets bleutés. Moi, je suis le soldat à l'avant-poste, mais je n'ai plus le beau costume de l'ancêtre et souvent je trahis quand le vent renonce à me secouer. Je laisse les chanteurs à bec et à plume se gorger de froment, se rassasier d'avoine, et je ris. Sous mon chapeau rond, quel bon tour. Je joue aux villageois, mes geôliers, mes torsionnaires. C'est ainsi que la large plaine, oui, fait si bon respirer l'espace où chaque saison laisse un sillage embaumé. On me l'a changé en prison par un jugement sans appel. Et certes, il n'est pas de pire châtiment que cette solitude sans fin et le mutisme de ce monde. Pourquoi, oh pourquoi m'avez-vous abandonné? À défaut de réponse, j'attends l'orage comme une promesse de délivrance, de révolte. Je flaire le moment d'être libre, de m'en aller d'ici pour toujours. Quand l'ouragan s'annonce au ras du sol par le frémissement de l'herbe, quand les nuages deviennent sombres, quand l'éclair déchire d'un coup la toile de l'horizon, quand le tonnerre roule ses barriques, quand la pluie s'abat, torrentielle, quand le grand fracas libérateur fait craquer mes jointures de bois, alors je hurle à l'été qui me tue. Si je suis ta victime reconnaissante, si la foudre me consume, tant mieux, j'aurai joué mon rôle. Otage solitaire et fracassé, car ce que je protège, ce ne sont pas seulement les semailles, c'est l'homme. L'homme tout entier, son crime, je l'assume, moi, le plus misérable de tous, j'en fais mon affaire. À cause de moi, il peut continuer à vivre, à aimer pour se reproduire et pour répandre toujours davantage l'épouvante sur toute la terre, jusqu'à la fin de cette race, à la fois maudite et sacrée. En attendant ce qui doit venir et jamais ne se montre, dans l'espérance et dans la crainte, passent les saisons. Le printemps s'éloigne de moi, puis l'été qui a mûri les moissons grâce à moi et malgré moi, vient le moment de la récolte. Au bruit des essieux qui crient s'approche le charroi des moissonneurs, mais ils sont aussi taciturne que les arbres, les cailloux, même en mangeant le pain sauvé des oiseaux, même en buvant le vin volé au vignoble, ils ne savent que dire. Ils regardent le ciel avec reproche, avec inquiétude, et ils hochent la tête avant de rentrer chez eux. L'automne arrive avec ses ombres. Les enfants ont grandi, ne me jettent plus de pierre, ils sont silencieux, eux aussi, devant les livres de classe à la lueur de la lampe. Quelquefois, devenu inutile, on m'emporte, on me jette dans la grange, sur un tas de bois, on m'oublie, et je me morfonds, toujours seul, jusqu'au printemps prochain. Souvent aussi, on me laisse là pour que je crève, héros et victime dérisoire d'une guerre dépassée. Mais ça n'est pas si simple, je vais vous raconter ce qui m'advient en secret, ne dit à personne. Je me secoue, mais cette fois sans avoir besoin du vent, et voilà que peu à peu, je retrouve mes deux jambes d'homme, je retrouve la joie d'être debout et de changer de place à mon gré, je m'arrache à cette terre que j'étais chargé de défendre, qui ne m'a jamais récompensé. Et je me mets à marcher, à faire sonner sur les pierres mes vieux talons ferrés. Ah, que c'est bon de renaître, elle m'entend, ma sœur aveugle et muette, la nuit, ma grande amie. Alors, je n'ai pas de plus grand bonheur pour croire encore que j'existe que d'éveiller la colère d'un chien évadé d'une ferme voisine. Lui aussi joue son rôle de défenseur imbécile. Pour lui, tout ce qui bouge est l'ennemi. Il me suit de près avec son jappement. Mais je n'ai pas peur. Qu'est-ce que ces crocs pourraient arracher de plus à mes haillons? Et qu'est-ce qui fait le plus peur à tout le monde? L'aboiement d'un chien ou l'ombre d'un homme. C'était L'Épouvantail de Jean Tardieu. Je vous remercie de m'avoir écouté.